Bonsoir Fabien.
Bonsoir David, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Alors on va effectivement parler de votre positionnement, de vos rapports complexes avec les autres formations de gauche, notamment le Parti Socialiste. Mais avant, effectivement, je voudrais vous poser quelques questions très concrètes sur des points très simples. Un questionnaire en forme de pour-contre, 5 questions. Vous allez voir, il n'y a pas de piège, c'est simplement pour avoir votre opinion. Et ça nous permettra
et après,
de...
on dit que c'est moi qui suis manichéen et simplificateur. Hein.
Non, mais là, vous
avez commencé
voir,
comme ça. Mais lui, il arrive à 5 questions, il faut répondre oui ou non.
Ah,
oui,
il y en a,
tout en nuance.
Il y en aura plus que ça. Mais écoutez les questions, vous allez voir, mais c'est aussi voir si vous avez des opinions tranchées sur certains sujets. Première question de ce pour-contre. Êtes-vous pour ou contre la régularisation de tous les sans-papiers?
Alors, je me prononce pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier à l'appel des plus puissantes organisations syndicales de ce pays. Et je voudrais que les gens comprennent une chose.
Tous les sans papier, pour situer simplement, c'est évidemment très difficile à quantifier.
Ah,
on estime entre plusieurs centaines de milliers, entre 300 et 500 000 selon les chiffres. C'est une fourchette large, mais on imagine ce que ça représente.
Oui, oui. Attendez, vous n'avez pas bien entendu ce que je vous dis. Mm-hmm. Je vous parle des travailleurs sans papier.
Alors, vous les avez quantifiés?
Vous avez évalué, mais monsieur... C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à vous. Parce que tous ceux qui passent leur temps à en faire un mythe, à sortir des chiffres inouïs et incroyables, quand on a posé la question des travailleurs sans papier, je sais que c'est pas facile pour eux, hein, de se mettre en avant et de se mettre en lutte, on n'a pas trouvé 200 ou 300 000, pardon de vous le dire.
Bon, non, donc, mais c'était quelques entreprises.
Ah oui, donc vous pensez qu'il y en a 300 000 qui se cachent?
Non, on n'en sait rien. C'est une estimation.
Vous n'en savez rien. Point. Premièrement, vous n'en savez rien. Et si par hasard vous savez quelque chose, supportez la réponse. Premièrement, donc, écoutez, premièrement, les travailleurs sans papier doivent avoir des papiers. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le seul moyen d'arrêter le dumping dans l'entreprise. Le travailleur qui n'a pas de papier ne peut pas se défendre, ne peut pas se syndiquer, ne peut pas faire respecter le code du travail. Donc il est maltraité, sous-payé et il ferme sa bouche. Voilà. Pourquoi croyez-vous qu'on lui ait donné du travail? Pour qu'il ferme sa bouche? Pourquoi doit-on lui donner du papier? Pour qu'il puisse l'ouvrir.
Voilà. Régularisation des sans-papiers qui travaillent.
Voilà. Maintenant, attendez, mais il faut, vous me posez une question, écoutez, il faut une réponse précise.
Eh mais vous avez répondu,
moi, je suis pour... Non, je n'ai pas répondu complètement. Si vous étiez attentif, vous apercevriez que non. Je suis pour la radicalité concrète.
Oui.
Je vais vous dire la chose suivante. Vos chiffres ne tiennent pas la mer. Mais mettons que ce soit 200 000, c'est déjà pas mal. Ni vous ni moi, on est capable de dire combien il y en a. Très bien. Alors, on va donc les attraper, c'est ce que dit Madame Le Pen, hein, et M. Guéant aussi, qui n'en manque pas une. Donc on va leur courir derrière, sachant qu'on en sort 20 000 par an, actuellement. Je peux monter à 300 000, et on dit qu'on en sort 30 000.
Sur les reconduites à la frontière.
Ils même chiffreront, hein, d'accord. Alors, combien de temps ça va prendre pour les sortir? 10 ans. Alors, pendant 10 ans, on va courir à toutes les portes des écoles, guetter les gens qui n'ont pas la bonne couleur, pas la bonne mine, pour les attraper, capturer leurs gosses, et les foutre dans des avions. Attendez, espérez qu'ils verraient tous au même endroit. Parce que tout ça, ça vous coûte une somme telle aujourd'hui que le budget de l'expulsion est égal à celui de l'action culturelle.
Régularisation des travailleurs sans papier.
Je crois qu'on a bien compris votre réponse.
Deuxième question.
J'espère que tout le monde a bien écouté les détails de ce que je dis. Parce que moi, je lutte contre le fanatisme et l'aveuglement. Je parle de problèmes concrets. Je dis à Madame Le Pen, vous voulez sortir 200 000 personnes du pays, comment vous faites? Arrêtez de faire du blabla. Personne ne peut le faire. La seule chose intelligente qu'il y a à faire, c'est de mettre du calme, de l'organisation, de l'ordre, et on met de la paix et un peu de bonheur, ça fera de mal à personne, au lieu de se regarder en coin et de courir derrière.
Jean-Luc Mélenchon, pour ou contre dépénaliser l'usage du cannabis?
Alors ça, c'est une bonne question, parce que personne n'est d'accord sur le sujet. Alors c'est en méli-mélo. Ce que je sais, moi, en tout cas au minimum, c'est que c'est complètement absurde de punir les consommateurs, parce que c'est disproportionné. Cependant, je suis pour qu'on continue à traquer les producteurs. Et j'ajoute la chose suivante. Le débat sur le cannabis est une très belle occasion de faire du bruit avec la bouche et ne pas parler d'autre chose. Parce que le cannabis, celui qui fume sa petite clope, le fait pour son petit plaisir. Bon. Et c'est un bonheur personnel. Alors on le discute, hein, moi je ne suis pas pour.
Certains considèrent que c'est une drogue qui est dangereuse pour la santé.
Et alors donc il faut se préoccuper des drogues dangereuses pour la santé. Vous êtes d'accord? Et à l'autre côté, parce que qu'est-ce que c'est le cannabis? C'est un psychotrope, c'est rien d'autre, quelque chose qui modifie l'état de conscience. Mais dans l'autre bout de la chaîne, vous avez... des gens qui souffrent au travail, qui sont malheureux, qui sont dans la déprime, qui sont harcelés. Et à cela, on leur prescrit des psychotropes. Et notre pays est record d'Europe de la consommation de psychotropes.
Pardon ? On leur prescrit pas du cannabis.
Ah ben non, c'est bien dommage, parce que c'est plus sympa que les saloperies qu'on leur fait prendre. Donc c'est bien dommage.
Alors pour la dépénalisation, voire la médicalisation, si on vous écoute.
Mais écoutez, j'essaye de... Non, mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est un médicament, j'en sais rien, je suis un médecin, moi. À vous, apparemment, oui, mais moi, j'en sais rien.
Ah, moi, je vous écoute, pose une question.
Moi, on m'a dit que le cannabis apaisait les douleurs et que c'était utilisé par certains médecins. Mais j'en sais rien, je ne suis pas médecin. Et puis, je suis candidat à l'élection présidentielle, pas à diriger l'hôpital du coin.
Plutôt oui, disons. Plutôt oui, on va dire.
Non, je suis en nuance. Vous êtes trop simpliste. Moi, je vous dis, je tiens...
Oui.
Non, écoutez-moi, je tiens un bon sujet, je ne vais pas le lâcher.
Ah, mais je crois que vous parlez,
puisque vous parlez du cannabis, je vous parle des psychotropes. Mais là, vous ne voulez pas en parler. Comment vous expliquez qu'il y ait chez nous autant de gens qui se suicident? Comment vous expliquez qu'il y ait chez nous autant de déprimes? Comment vous expliquez que le suicide soit la première cause de mortalité des jeunes? Comment? Pourquoi on vend tant de psychotropes? Ça ne vous pose pas de problème. Le cannabis, c'est le grand sujet. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les psychotropes en général. Et puis, si vous passez sur le terrain des drogues et des addictions, mes amis,
allez, ça va être chaud pour vous. Fabien, ce sera l'objet de débats ultérieurs.
Absolument. Pour ou contre abandonner le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies?
En aucun cas. Très bien. Jamais, pas question.
Donc la France, hostile à ce qui figure dans l'accord passé entre les Verts et le Parti Socialiste,
si on l'a bien lu. C'est une insondable sottise. Ça n'a pas de sens.
Pourquoi?
Parce que ce serait au profit de quoi, s'il vous plaît?
Disons l'idée générale.
On dit au revoir, on n'est pas digne d'être là.
Non, mais d'une idée générale, universalité, c'est des nations émergentes qui, à leur tour,
c'est pas pareil, ça. Partager et faire entrer les nations émergentes au Conseil de sécurité, c'est une chose, et ça, c'est bien.
Et partager le siège de la France, c'était une espèce de siège tournant.
Non, mais nous, on a un siège. Quand on a un, c'est un peu dur de partager, il faut se couper en deux. Bon, non, pas d'histoire.
Donc,
faire entrer des pays émergents, il faut quand même entendre la raison, mais poser la question. Faire entrer des grandes puissances émergentes au Conseil de sécurité, oui, on ne peut pas rester le club des vainqueurs de la dernière guerre. Bien. Ça, c'est une certitude. Mais ce qui est très important dans la démocratie des Nations Unies, c'est l'Assemblée Générale et ses pouvoirs. Et là, nous avons des problèmes d'organisation de cette Assemblée Générale. C'est une certitude. Mais attendez. Je veux venir sur le fond. Ça, ce qu'on partagera avec qui, vous n'osez pas me le dire. Vous êtes coincé ou quoi? C'est pour donner notre siège à l'Europe. Mais c'est ça, mais dites-le, il ne faut pas avoir peur, c'est une idée comme une autre. Eh bien, c'est stupide, parce que l'Europe n'a pas de politique étrangère aujourd'hui. Et je renonce que ma patrie ne soit pas représentée pendant qu'on donnerait le pouvoir à l'improbable Madame Ashton, avec son service je ne sais quoi européen, qui consiste à démanteler le réseau diplomatique français, ce à quoi je m'oppose également.
On vous a entendu, quatrième question. Pour ou contre, si vous êtes chef de l'État, recevoir le Dalaï Lama lors d'une visite en France?
Non. Non, pourquoi le recevoir?
Alors là, on vous pose la question parce que vous êtes assez, on va dire, à rebrousse-poil d'une espèce de consensus sur le Dalaï Lama, où tout le monde va le voir, va le saluer, les plus hautes autorités.
Oui, oui.
Vous, non.
Pas moi.
Et non, considère qu'il y a une oppression chinoise au Tibet. Attendez, et que lui, étant le représentant des Tibétains, a droit aussi à la considération.
D'accord. Lui, il est représentant autoproclamé des Tibétains. Parce que vous avez décidé à Paris, tranquillement, assis dans vos fauteuils, que le représentant des Tibétains, c'est un curé. Très bien. Eh bien, pas moi. Voilà. Alors, je ne recevrai pas le Dalaï Lama.
Ouais.
Je n'ai aucun mépris pour sa religion, ni pour ce qu'il fait. Mais je suis le chef d'un État laïque. On ne reçoit pas les chefs religieux. De la même manière, je n'irai pas, ni à la messe, ni à la synagogue, ni à la mosquée, ni nulle part.
Vous voilà. Et
le chef de l'État,
s'il venait en visite
loi, article 2 de la loi de 1905, l'État ne reconnaît aucune religion. Ça ne veut pas dire qu'il les ignore, mais il ne les reconnaît pas.
Si le pape était en visite en France, vous ne le recevriez pas?
Ah ben, par politesse, lui. Par politesse, mais je ferais comme le chef d'État mexicain. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé... Le mexicain, donc c'est pas un révolutionnaire, celui-là. C'était un type de droite. Mais il est laïque. Il est arrivé, comme ça, il est arrivé, il dit « Bonjour, monsieur, bienvenue au Mexique, je vous rends à vos ouailles. Bonjour, au revoir, et voilà. »
Cinquième question. Voilà, on se met en situation, vous êtes élu président de la République française.
C'est un sujet très sérieux.
Oui, la France a une identité. On rigole pas.
Non, mais la France a une identité laïque. Il ne faut pas passer ça par-dessus bord. Ce n'est pas un à côté. C'est la grandeur, la splendeur, le message qu'on a pour le monde entier.
Et au passage, vous ferez plaisir à la Chine. Sous couvert de laïcité, vous ferez plaisir à la Chine aussi.
À qui ferais-je plaisir?
Si vous ne recevez pas le Dalaï Lama.
Mais ce n'est pas le sujet, je ne m'occupe pas de la Chine, je m'occupe de la France.
Non, mais le Dalai Lama, c'est un sujet
chinois. C'est une affaire de Chinois. Ouais. Et puis on peut dire aussi qu'on n'est pas content qu'il n'y ait pas le multipartisme en Chine. Mais ça, bien sûr, moi je le dis comme tout le monde. Mm-hmm. Hein. Je vous signale, contre les rumeurs, on m'a dit un ami de la Chine, oui, de la culture chinoise, du peuple chinois, éternel peuple chinois, grand peuple chinois.
Mais pas du système politique chinois.
Mais de là, être d'accord avec le gouvernement de la République populaire de Chine, ouais, ce n'est pas tout à fait la même musique. D'ailleurs, vous savez, j'aime beaucoup le peuple américain, je déteste le gouvernement américain. Pas celui de M. Obama, qui est moins pire que celui de Bush, mais écoutez, je vous en prie. Alors maintenant, vous savez, c'est le système marabout de ficelle. Donc vous ne recevez pas monsieur le Dalai Lama parce que c'est un chef religieux, donc vous n'êtes pas pour, je ne sais pas quoi, au Tibet, donc vous êtes pour le Parti communiste chinois. Ça va,
on a entendu le raisonnement. Hein, cinquième et dernière question de ce questionnaire.
Et je redis solennellement que le chef de l'État, le président de la République française, ne reçoit pas les chefs religieux. D'accord. Point. Deuxièmement, la République populaire de Chine, nous l'avons reconnue en 1964 dans ses frontières actuelles. Chef de l'État, je respecterai la parole de mon pays.
Parlons de chef de l'État.
Chef de l'État, j'ai la dernière question.
Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous supprimerez l'élection du président au suffrage universel?
Alors ça dépend pas de moi, mais moi j'espère être le dernier président de la 5e République, je rentre.
Ah bon?
Nous convoquons. Mais oui, il faut lire mon programme, parce que vous m'avez dit que vous l'avez lu attentivement.
Mais si justement, j'ai lu votre programme, vous dites revalorisation du Parlement, où il faut...
Vous l'avez mal lu, cher ami.
Non, j'ai pas mal lu.
Non, vous n'avez rien lu.
Redéfinition générale et réduction des attributions du président de la République, c'est écrit dans le petit programme que vous avez.
Mais pardon, monsieur.
Mais à aucun moment vous n'allez jusqu'au bout de la logique.
Oui,
vous
monsieur Namias.
Voilà, et vous ne prononcez pas sur le mode d'élection du chef de l'État.
Car, non, ceci n'est pas une réformette de la 5e République à la sauce, à l'eau de rose tiède, ou les combines de M. Sarkozy qui a réformé la Constitution je ne sais combien de fois sans demander l'avis du peuple français. Le document du Front de Gauche dit « Si nous sommes, nous, à la tête de l'État, nous convoquerons une constituante. Nous voulons passer à la, lisez sur mes lèvres, 6e République. »
Mais dans la 6e République, on vote pour le président ou pas?
Attendez,
c'est pas écrit.
Bien sûr, ne faites pas comme ça. Heureusement que c'est pas écrit. Parce que vous auriez le droit de me dire, vous êtes complètement fou. Vous convoquez une constituante et vous écrivez dans votre programme d'avance ce qu'il va y avoir à la constituante.
Non, mais vous avez le droit d'avoir une opinion, une préférence.
Oui, c'est pas pareil.
Alors,
c'est pas pareil.
Donc,
mais je veux que ceux qui nous écoutent entendent bien. En ce moment, il y a plein d'écoutes collectives dans le pays. Hein. Donc, je veux qu'ils entendent bien. Le programme du Front de Gauche, et nous convoquons une constituante, comme cela a été fait dans tous les pays où a eu lieu une révolution citoyenne, que ce soit l'Islande, que ce soit le Venezuela, la Bolivie, la Tunisie, on convoque des constituantes pour mettre un habit propre, neuf. On se met au 21e siècle. Voilà. Une constituante. Donc nous n'avons pas le droit de dire d'avant. Maintenant, je peux exprimer ma position personnelle.
Opinion,
oui. Moi, j'aime les régimes parlementaires. Et puisque tout le monde me parle sans arrêt de l'Allemagne, par exemple, du type de l'Allemagne. Le chancelier, le Premier ministre, est celui qui a conduit la liste aux élections législatives qui arrive en tête. Voilà qui est simple. Et il a des pouvoirs qui sont placés sous le contrôle du Parlement. Voilà. Ma conviction personnelle est que j'aimais beaucoup le système de proportionnel qu'avait inventé Pierre Joxe et que la gauche avait adopté dans les années 80, qui permettait, lorsque plusieurs partis se coalisent, que la liste arrive en tête et y ait des majorités stables. Nous mettrions un cliquet, si on me demande mon avis.
1986, ça a été aux législatives de 86.
Voilà.
Une seule fois.
Si, oui, ça n'a fait qu'une seule fois. C'est très dommage parce qu'on aurait pu le faire plus. Et je me rappelle qu'à cette époque, tout le monde a dit « Vous avez fait entrer le Front National ».
Voilà, il y avait 30 députés, ça.
Oui, bien sûr, mais tout le monde avait juste oublié que la proportionnelle avait été mise aux européennes par M. Valéry Giscard d'Estaing et pas par François Mitterrand. Donc, c'était l'époque où les mauvais comptes faisaient les bons amis. Donc je le redis, nous croyons à la proportionnelle et nous croyons qu'un régime parlementaire peut être stable si on prend la méthode qu'appliquent les Allemands, c'est-à-dire que lorsqu'on veut renverser un gouvernement, il faut proposer en même temps une majorité de rechange.
Et pas
de majorité de
rechange,
pas de renversement.
Pour revenir à notre question, Jean-Luc Mélenchon, donc régime parlementaire
stable, aussi vite que possible,
sans élection du
président en communication vont dire que je parle trop vite.
Non, sans élection du président de la République au suffrage universel, c'est votre préconisation.
Moi, je préférerais,
on enchaîne, il nous reste 2 minutes. Vous avez 2 minutes de débat.
Attendez, Pujadas. Cette affaire rend fou. Vous voyez pas qu'ils sont tous en train de devenir fous, qu'ils se voient monarque quinquennal, aussitôt ils prennent des postures,
et
les voilà comme sculptés dans le marbre.
Et
il faut être simple.
Vous êtes différent? Vous êtes si différent d'eux?
Ah, clairement, monsieur. Moi, mon idéal dans la vie, c'est Cincinnatus. Hein, pour ceux qui connaissent l'histoire antique, tu fais le travail, tu le fais bien, et après tu rentres à la maison. Moi, je ferai la constituante, le programme qu'il y a là-dedans, et je rentre à la maison.
Allez. On en vient à votre relation complexe, brutale par moment, en tout cas dans l'expression, avec le candidat socialiste.
Donc il reste 1 minute, vous avez 2 minutes de débat, on essaye de parler de François Hollande
oui. Et d'un autre sujet.
Il y a une petite phrase qui a beaucoup marqué les esprits concernant François Hollande. Vous l'avez dite cet automne dans le journal du dimanche. Je vais la reciter. Hein. Pourquoi choisir pour entrer dans la tempête un capitaine de pédalo comme Hollande? Alors, je ne vais pas vous demander si vous regrettez, parce que je sais que vous posez la question à chaque fois et ça vous amuse. Vous la reprononceriez, cette phrase, aujourd'hui?
Regardez comment les téléspectateurs, ils regardent, ils voient la page. Hein. Ouais. Il y a une page entière. Tout le haut, c'est à propos de la droite. Ouais. J'avais trouvé un bon mot. J'étais content de moi. Ouais. J'avais dit que monsieur...
Ah, il a marché, celui-là.
Non, j'avais dit que François Fillon était un économiste de cimetière, parce qu'avec lui, avec les morts qui étaient bien, parce qu'ils ont besoin de rien.
Oui, et personne n'a relevé. On s'attendait plus à ce que vous avez dit sur François Fillon qu'à ce que vous avez dit sur François Hollande.
Ah, mais voilà, attendez, d'accord, mais ne me mettez pas une préférence qui n'est pas la mienne. Moi, je n'ai jamais demandé qu'on sorte la phrase. Maintenant, c'est un bon mot et j'ai eu raison de le faire. Parce que ne tournons pas autour du pot. Quand on ne joue pas le jeu médiatique, on ne vous entend pas. J'ai critiqué le texte de François Hollande.
C'est un jeu, ça.
Écoutez-moi, qui est absurde. Il a fait une tribune dans Le Monde dans laquelle il déclare que dorénavant, les accords entre patronat et syndicats seraient automatiquement enregistrés et s'imposeraient au gouvernement et au Parlement. Ça s'appelle l'État corporatif. Il a appelé ça, lui, la République contractuelle. C'est une question très lourde, très profonde, très importante. Dites-moi quelle a été votre réaction. Rien. J'ai fait une tribune dans le journal, La Tribune, journal économique, avec M. Madelin qui me donnait la contrepartie. Avez-vous fait des titres le 20h? Rien. Là, vous ne vous intéressez qu'aux petites phrases, ai bien eu.
Jean-Luc Mélenchon, vous ne parlez pas des idées de François Hollande, vous parlez de François Hollande lui-même avec cette formule. Vous voyez bien la différence.
Non, mais vous feriez battre des montagnes entre elles, là, si on vous écoutait. Moi, j'ai dit une chose, et je le redis à François Hollande. Nous entrons dans une saison des tempêtes. Le programme du Parti socialiste, les mesurettes de toutes sortes, son abandon à la politique d'austérité, la social-démocratie européenne avec son président qui était le premier ministre grec. Tout ça, c'est de la méthode de pédalo. Pour la tempête, il faut une armature forte, il faut mobiliser le peuple français.
Est-ce que cette image drôle, ce talent de tribun, est-ce que finalement, vous ne redoutez pas qu'il serve davantage les intérêts de la droite? Je vais vous montrer deux petites séquences assez courtes. L'une extraite d'un reportage de Valérie Astruc, on voit ce qu'on appelle la cellule riposte de l'UMP chargée de trouver des arguments contre François Hollande.
Ils nous ont laissé filmer?
Oui, ils nous ont laissé filmer.
Ah oui, formidable.
Voilà.
Hein.
Oui, mais vous savez, voilà.
Vous êtes comme chez vous, là.
On est allé filmer dans tous les partis.
Moi, vous ne mettrez pas les pieds dans ma cellule riposte.
C'est dommage.
Il y en avait une, vous ne viendriez pas.
Et on va filmer dans tous les QG pour la campagne présidentielle. Et ce sera suivi.
Ils vous ont fait venir le jour où ça les arrangeait pour que vous filmiez ce qu'ils avaient envie de vous dire. Allez-y, passez.
Non, c'était prévu. Ça passait comme ça.
C'était bien longtemps, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'était prévu une semaine avant. Oui, dis plus Jadas pour aggraver son cas. Faites au moins semblant que c'était par surprise.
Prévu une semaine.
Et on regarde après quelques députés UMP dans la foulée, quelques députés UMP qui parlent de vous.
Allez. Des naïfs.
On les écoute.
Allez-y. Un bonheur, de toute façon, on n'a plus rien à faire entre capitaine de pédalo, ségolénisation, on n'a plus rien à faire. On va être au chômage. Finalement, on va être la cellule riposte au chômage.
Ça, c'est la première séquence.
Ça, c'est la première séquence. Et il y a une deuxième séquence.
C'est convaincant, hein.
On a vu Roger Carucci, donc un élu UMP qui vous cite pour dire qu'il n'a plus d'arguments.
Oui, bah, bien sûr.
Donc on est peut-être naïf, mais en tout cas,
ça, là,
ils vous utilisent. En tout cas, ils sont contents de le faire.
C'est clair que vous êtes naïf.
Écoutez,
vous réfugiez au député UMP.
Ça fait une heure et demie que je suis là. Je peux quand même sourire un peu.
Allez, c'est pas la première fois qu'on sourit dans les.
Souriez peut-être, je ne sais pas, mais en écoutant ces députés UMP qui parlent de vous.
Ah.
Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il a des convictions. Être mauvais camarade à Hollande n'est pas particulièrement... C'est pas particulièrement le sujet qui me déplaît le plus chez lui. Hollande, il n'y a pas que lui qui pense la même chose de son inaction, de son indécision, mais il a dit.
C'est là que vous êtes d'accord.
Là, on est d'accord.
Il alimente fort bien le débat à gauche. Sans doute que les camarades socialistes sont moins contents, mais tant pis pour eux.
Objectivement, pour reprendre un terme souvent utilisé par les marxistes, dont il est... Eh bien, objectivement, il peut servir la droite.
Alors, l'allié objectif de la droite, comme on vient de l'entendre.
Quelle blague. Bon, je vous félicite. Vous avez fait un magnifique travail d'enquête. Vous avez révélé quelque chose. Là, on le voit.
Vous avez posé une question simple, franchement.
Écoutez,
les mérites sont limités.
Que les choses soient claires. Le front de gauche est le front par lequel des milliers de gens qui n'iraient pas voter vont aller voter. Parce que figurez-vous que tout le monde ne se reconnaît pas dans la tambouille de ce programme à géométrie variable qui existe entre les Verts et le Parti Socialiste. Et que majoritairement, les gens de gauche veulent se débarrasser de Sarkozy, comme nous, veulent battre le Front National, mais ne se sentent pas représentés par cette chose qui ne leur propose absolument rien dans leur vie. Moi, quand je parle, j'assume la difficulté. Vous avez vu comment j'ai défendu l'augmentation du SMIC. Vous avez vu comment je défends la retraite à 60 ans. Voilà, c'est clair. Vous en voulez, vous saurez ce qui se passe.
Vous pourriez le faire sans attaquer le candidat socialiste.
Mais
c'est ça la question
pas,
qui est posée.
Vous, à ce moment-là, vous diriez, mais monsieur Mélenchon, vous êtes le supplétif du Parti Socialiste. Voilà comment vous êtes. Vous n'êtes jamais content. Monsieur Hollande, et je ne cherche pas à vous faire plaisir, je cherche à m'adresser aux millions de gens que ça a pu de quel côté se tourner.
Même si c'est un petit peu choqué ou dérangé,
oui,
on va dire, dérangé.
Je vais vous dire,
parmi vos amis,
ne me cherchez pas trop.
Mais
parce que vous commencez à me chauffer.
Le Parti communiste,
je suis désolé, c'est pas l'intention, c'est simplement vous poser quelques questions.
Attendez, je vais finir ma réponse parce que j'ai quand même quelque chose à vous dire sur le sujet. J'estime que le front de gauche est la condition d'une victoire de la gauche. Et je voudrais que le front de gauche soit le plus puissant possible pour que ce ne soit pas la victoire par défaut. On prend le candidat socialiste parce que je ne sais pas quoi faire de mieux, parce que l'autre, on ne le supporte pas. Qu'est-ce qu'il va faire? On n'en sait rien. Non, je veux que ce soit une victoire flamboyante pour changer le pays, pour faire la planification écologique et pour faire le partage des richesses. Voilà ce que je veux.
Bien,
non, attendez, donc il est mon concurrent. Mais alors voilà ma difficulté.
Pas votre adversaire.
Mais bien sûr que non, mon adversaire, c'est Sarkozy et c'est Mme Le Pen. Lui, c'est mon concurrent. Alors comment je fais? Je vais le béret à la main, lui demander poliment au débat. Mais je l'ai fait. J'ai fait une offre au public de débat. J'ai dit, allez, parlons devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Rien du tout. Il m'a envoyé ses snipers. Et vous ne faites pas une enquête à la cellule riposte de l'UMP pour savoir si, quand M. Huchon dit que je suis pire que l'extrême droite, quand M. Lang dit que j'appartiens au cabinet noir de Sarkozy, en m'insultant aussi grossièrement, c'est pas eux qui sont en train de faire le jeu de la division de la gauche. Je sais pourquoi ils font ça. Pour montrer que le front de gauche n'est pas fréquentable et qu'il vaut mieux s'adresser à ce bon M. Bayrou, avec lequel lui est respectable, avec lequel on ne manque jamais d'une parole aimable, d'une courbette, d'une genouflexion.
Donc François Hollande a dit récemment qu'il n'en ferait pas son Premier ministre. Enfin voilà.
Allez, on enchaîne, Fabien.
Attendez, mais vous êtes très convaincant, Damias. Donc vous m'apprenez qu'ils n'ont pas l'intention de s'allier. Mais écoutez, non, ne racontez pas d'histoire.
Non, c'est une interview qu'il a accordée au journal Le Point il y a 15 jours.
Allez, on enchaîne, s'il vous plaît.
Si jamais il gagne, mais il n'exclut pas de faire alliance avec lui, monsieur Namias. Ne racontons pas d'histoire, il y a des millions de gens qui nous écoutent là.
On y va.
Parce que s'il y renonce, mais je suis très content. Je serai heureux, tout le front de gauche fait la fête, il ne veut plus entendre parler des centristes, bravo. Mais c'est pas ça qui se passe. Non seulement lui n'arrête pas de faire des courbettes, mais Madame Joly s'y est mis aussi. Et bien donc, il ne reste que le front de gauche pour tenir bon la position à gauche. Voilà.
On a compris. On termine
vous avez
pour,
compris, mais évoquer... vous avez mettez du temps à comprendre.
Ah, bah oui, mais c'est lent. C'est lent, mais, oui, mais on essaie de se mettre dedans. Il y a quelque chose
à s'immiscer à votre hauteur.
Voilà.
Mais... Vraiment, monsieur Pujadas.
Vous voyez, on est un peu dur de la feuille.
Il y a quelque chose qui vous irrite. Alors, ça ne m'a pas manqué de vous irriter,
mais
je pense que vous êtes chaud. C'est à chaque fois que l'on évoque une espèce de parallélisme d'attitude entre vous et Marine Le Pen. Il y avait d'ailleurs un dessin, je crois qu'on devrait pouvoir le voir, qui était paru à la une du journal Le Monde, un dessin de Plantu. Voilà. On voyait l'ascension des néo-populistes, où on vous voit à côté de Marine Le Pen. Vous savez, on l'avait reçue sur ce plateau en juin, c'était la première invitée de cette émission, et on lui avait parlé de cette forme de bienveillance qui pouvait exister entre vous. On lui avait diffusé un extrait saisi sur le vif dans le couloir du Parlement européen par les caméras de Direct 8. Regardez.
Là, la pression va être forte sur vous.
Et sur vous encore plus, madame.
Non, mais ce qui d'ailleurs est une erreur. Parce que moi, je pense que empêcher la multiplication des candidats, c'est le meilleur moyen
de vous renforcer.
J'en ai marre de me faire traiter de fasciste.
Je vous comprends. Moi, j'en ai marre de me faire traiter de le pénis, donc je comprends.
Voilà, bon, vous voyez, mais ça, vous ne pouvez pas encore poursuivre si ce n'est pas une injure.
Bon,
voilà, alors on voit, vous êtes en désaccord, ça, c'est incontestable.
Ah, quand même.
Ah oui, j'ai jamais parlé d'accord sur la ligne politique.
Ah bon, quand même.
En revanche, compte tenu même de ce que vous avez dit sur le Front National au début de cette émission, il y a un dialogue un petit peu étonnant. Voilà.
Alors, il faut... Pas du tout. Et je crois que, d'abord, le dessin est très blessant. Je suis un homme de gauche et je me suis affronté avec tout cela toute ma vie. Hein. Je n'oublierai jamais qu'au Chili, on était des deux côtés du camp. Hein. Moi, j'étais du côté de ceux qui prenaient les coups.
Non.
Je ne dirai jamais.
Là, ce n'était pas l'affrontement dans les couloirs.
Attendez. Parlement. Nous avons fait un choix stratégique d'affronter le Front National à visage découvert, en disant on va lui faire l'effet Dracula. On allume la lumière, il part en miettes. La scène que vous venez de voir là a deux caractéristiques. Premièrement, elle se situe une semaine après que j'ai eu un débat sur le plateau de BFM avec Mme Le Pen. Je la croise à cet instant. Notre croisement se fait dans les couloirs du Parlement européen. Il se fait par hasard. Qui tient la caméra? Qui? Votre collègue, Mme Trierweiler, la compagne de François Hollande, qui choisit à ce moment-là de retenir ces 3 secondes pour les mettre dans son reportage. Eh bien, j'estime que, du point de vue de l'éthique journalistique, elle n'a pas fait son travail. Parce que chaque fois maintenant que dans un couloir je vais croiser des gens que je salue parce que je les affronte politiquement, je vais devoir supporter la honte et l'infamie de me voir assimilé à eux comme l'a fait M. Plantu, ce que je ne lui pardonnerai jamais.
Je ne sais pas
s'il y a
une arrière-pensée politique dans la séquence qu'on a vue. N'importe quel journaliste filme une séquence de cette nature, la diffuse. Franchement,
on m'a fait le même coup avec M. Hortefeux, comme ça on va les passer tous d'un coup. J'étais au bar, je bois mon café, M. Hortefeux est à côté, bonjour M. Hortefeux, bonjour M. Mélenchon. Alors, votre campagne, je me moque un peu de lui, il se moque de moi. Qu'est-ce que je lis dans le journal? Mélenchon prend son petit déjeuner avec Hortefeux. Ça va, ça suffit. Ça suffit. J'ai passé ma vie entière à lutter contre l'extrême droite et je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend,
monsieur Namias. D'ailleurs, l'interdiction du Front National il y a 20 ans, on a compris que vous ne le faites plus.
Ce qui m'attend comme premier porte-parole aujourd'hui, j'espère que bientôt je passerai le flambeau victorieux à quelqu'un d'autre. Eh bien, ce qui m'attend, comme dans toutes les séquences de l'histoire révolutionnaire de notre pays, à la fin, ça se termine entre eux et nous. Et tous les autres auront disparu, cachés sous la table, à moins qu'ils ne continuent l'odieuse comédie qu'ils font aujourd'hui. Bien. En exagérant le rôle de Mme Le Pen, en assignant la classe ouvrière à Mme Le Pen, qui n'a rien à voir avec eux. Ce que vous faites tous les jours avec des unes de journaux qui prétendent que 30% des gens se préparent à voter Le Pen, je ne dis pas vous, c'est une honte de faire ça. Parce que nous, les militants, le premier réseau de terrain, dans le peuple, c'est le Front de Gauche, c'est militants syndicalistes, c'est militants associatifs, le premier réseau. Et nous, des militants lepénistes, on n'en rencontre pas. Vous savez par où Le Pen rentre dans les maisons? Par la télé, par la radio. Voilà. Réfléchissez-vous et interrogez-vous sur la manière dont vous menez votre métier. Pas vous deux, puisque vous êtes là en face de moi.
Et, c'est vous qui
et demandez-vous
soir,
si vous n'êtes pas en train d'encourager et même de fabriquer une mode.
En tout cas, vous êtes là ce soir pour 2 heures de débat sur Luc Mélenchon.
Vous voyez, ça ne m'irrite
pas. Bien. Allez, il faut qu'on avance.
Ça me passionne.
Et on va passer maintenant
merci,
au
Namias.
Débat.
Merci, Monsieur Mélenchon.
Sans rancune. Merci, Fabien. Celui qui va... Ah ben, j'espère bien, sans rancune.
On n'est pas là.
Mais pourquoi
ça,
c'est pas lui le débatteur. C'est celui qui va venir,
Jean-Luc Mélenchon.
Non, ben alors... C'est Jean-Louis Béfa.
Quand même, il m'a quand même bien assaisonné avec ce dessin épouvantable.
Il vous a posé des questions.
Il vous a posé des questions.
Jean-Luc Mélenchon. Allez, merci Fabien.